enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Mon thème sera la mort vue par Jésus. La mort vue par Jésus. Nous sommes dans une période un peu particulière puisque, eh bien, il y a demain la fête des morts, après-demain. Ce soir, on a des citrouilles qui circulent, des squelettes et toutes sortes de personnages assez surprenants. À quelque part, la mort a toujours fait peur. Et je dirais que même ce soir, on exorcise un peu la peur que l'on a face à la mort. On est en train de magnifier la mort. Mais je me dis que le pays actuellement a besoin d'autre chose que ce qui se passe ce soir. Il y a une jeune femme qui est entre la vie et la mort parce qu'elle est brûlée à 70%. La mort, lorsqu'elle se présente, peut se présenter sous son aspect le plus terrible. La Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et la mort sera jetée dans le séjour des morts. Ceci dit, lorsque nous sommes en Christ, eh bien, nous avons le droit de regarder la mort, mais la regarder comme Jésus la regarde. Et j'aimerais ce soir vous aider à regarder la mort qui est une échéance que nous rencontrerons tous, à moins que Jésus ne soit revenu. Mais je vous garantis qu'il n'y en a aucun ici qui n'aura pas un jour rendez-vous avec elle. J'ai pas envie de vous faire dire à votre voisin, tu as bientôt rendez-vous avec elle. Mais il est clair que tous, nous avons tôt ou tard, bientôt rendez-vous avec cette dernière. Lorsque l'on connaît le Seigneur, on peut, eh bien, tout en sachant que ce rendez-vous nous attend, l'appréhender avec beaucoup de confiance. Parce que Jésus ne voit pas la mort comme vous et moi. Permettez-moi de revenir à un récit connu dans Jean 11, versets 1 à 4, c'est le récit de Lazare. Si vous êtes là pour la première fois, d'abord, soyez les bienvenus. Deuxièmement, si vous n'avez jamais entendu parler de Lazare, je vais courtement vous en parler. Troisièmement, à la fin de ce culte, allez à la librairie, demandez une Bible, elle vous sera donnée gracieusement pour que vous-même puissiez lire l'histoire de Lazare. Je lis avec vous, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Versets 11 à 14, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, finalement tant mieux, hein, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Verset 20, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arriva, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Versets 32 à 36, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut toute émue. Et il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et je termine, versets 38 à 44, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Un récit qui pour la plupart d'entre nous est connu. Des amis de Jésus, dont Lazare, il est malade, l'information vient à Jésus. Et puis, Jésus ne s'affole pas, ne se bouscule pas. Il attend encore 2 jours avant de retourner. Les sœurs, le voyant arriver, mais malheureusement, à leurs yeux, trop tard, lui expriment toute leur déception. Si tu avais été ici, eh bien, il ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Et puis, vous connaissez tous, eh bien, cette déclaration fameuse, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, dans leur désarroi, entendant cette parole, elles vont voir la gloire de Dieu. Soudain, l'impossible devient possible. Soudain, l'inimaginable devient réalité. Soudain, le surnaturel se manifeste dans le monde naturel. Soudain, les paroles de Christ deviennent puissantes. Elles deviennent vérité et vie. Et ce mort, qui est déjà en état de décomposition parce qu'il sent déjà, et je ne sais pas si vous avez déjà senti comment on sent un mort en état de décomposition, mais il m'est arrivé de faire des obsèques dans lesquelles, eh bien, le mort sentait déjà, je vous assure, il vous faut une sacrée dose de foi pour appeler Lazare, sors. Rien qu'à l'odeur, le doute s'installe. Jésus appelle et le mort ressuscite. La foule glorifie Dieu et se réjouit. Ça, c'est l'aspect que nous connaissons en général, chacun d'entre nous. Cependant, ce soir, j'aimerais lire avec vous ce texte en regardant cette scène et les événements avec et au travers des yeux de Jésus. Quelle fut la vision de Jésus sur cette situation ? Qu'a-t-il ressenti ? Quelles furent ses réactions ? Et quelles furent ses déclarations ? J'aimerais ce soir que nous nous appliquions à regarder cette scène que nous connaissons sous l'angle que j'ai décrit tout à l'heure, de manière différente. On va la regarder avec et au travers des yeux de Jésus, si vous êtes d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est la même chose. Premier point. Première déclaration de Jésus. Il n'est pas mort, mais il dort. Dans un premier temps, au verset 1, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il savait donc déjà, dès le départ, ce qu'il allait faire. Souvenez-vous de cela. Parce que de cela dépend également toute l'interprétation que vous allez donner à ses réactions par la suite. Lorsqu'il pleure, lorsqu'il frémit, lorsqu'il est ému. Dès le départ, Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Jésus savait qu'il serait glorifié au travers de ce miracle. Jésus le savait. Et après avoir dit qu'il, eh bien, le ressusciterait, il nous est dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Moi, j'aime ça. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. À partir de là, les disciples se disent, bon, s'il dort, c'est moins grave, hein. Tiens, franchement, quand on vous dit, il dort, ça vous affole moins. Quand on vous dit, il est mort, ça pose déjà plus de problèmes. Moi, pour l'instant, je réveille plus facilement ceux qui dorment que ceux qui sont morts. Enfin, je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais... Il me semble que réveiller les morts, c'est plus difficile que de réveiller ceux qui dorment. Donc, je me mets dans la tête des disciples en me disant, bon, il dort, je vais le réveiller. Ok, pas de problème. Et soudain, il les amène à la réalité. Lazare est mort. Là, j'imagine que les disciples n'ont pas dû bien comprendre. Ceci dit, Jésus est en train de leur montrer quelque chose. Quand Jésus regarde la mort, quand Jésus voit un homme, une femme qui lui a appartenu et qui est mort, pour Jésus, il dort. Hello. Ça me semble beaucoup plus cool, hein? Aux yeux de Christ, il dort. Que faites-vous quand vous dormez? C'est drôlement embêtant comme question, hein? Parce que finalement, on sait même pas ce qu'on fait pendant qu'on dort. Ma femme m'a déjà dit, tu ronfles. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est toi et tu t'entends. Tu bouges quand tu dors. C'est pas vrai. Parce que finalement, quand on dort, on est présent tout en étant absent. Parfois, on parle. Je me souviens, quand je travaillais encore à Peugeot, je me suis levé un matin très tôt. 4 heures. Et puis, je me lève pour aller au travail. Ma femme me dit... Elle dormait. Oublie pas d'attacher la caravane. J'ai dit, ça, c'est pas juste. Moi, je vais bosser et elle part en vacances. Ça, c'est pas correct. D'ailleurs, parfois, c'est intéressant d'écouter ce qu'il raconte pendant qu'il dort. Parfois, c'est même inquiétant. S'il appelle Germaine, Germaine, alors que vous vous appelez Dominique, dites donc. Ah oui, mais quand nous dormons, nous faisons des choses sans même que nous en ayons conscience. Ceci dit, pour ceux qui nous entourent, nous sommes présents sans être présents. Nous ne pouvons pas leur parler, ils ne peuvent pas dialoguer avec nous, nous ne pouvons rien entreprendre, ils ne peuvent rien entreprendre avec nous, nous sommes là et pourtant nous sommes absents. Jésus, par cette déclaration, va changer toute la signification de la mort. Il la considère comme un sommeil parce qu'elle est un passage qui conduit à la résurrection. Nous, quand nous parlons de la mort, elle nous terrorise souvent. Elle nous effraie. Lisez le livre des psaumes, vous verrez combien de fois la mort est présentée comme quelque chose d'effroyable. La mort est souvent un moment difficile et il l'est en réalité. Il y a parmi nous des hommes, des femmes qui ont perdu un être cher. C'est un moment douloureux, c'est un moment pénible. Pour certains, c'est un moment qui mène au désespoir parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et lorsque celui que vous avez aimé meurt sans que vous n'ayez d'espérance, alors c'est la fin. Ceci dit, même lorsqu'on est chrétien, eh bien l'absence va peser. Cependant, nous devrions nous souvenir qu'en finalité, il dort. Quand quelqu'un dort, vous vous attendez à ce qu'il se réveille? Vous ne vous inquiétez pas? Mesdames, est-ce que vous êtes inquiètes en vous couchant le soir pour le réveil de votre mari? Dominique, t'es inquiète? Mais non. Vous êtes plein de confiance. C'est pour cela que vous dormez à côté. Vous dormez même bien, n'est-ce pas, Béatrice? Parce que vous savez, le lendemain, il ouvre les yeux et il se réveille. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui ne nous angoisse pas. Frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés dans la gloire et qui sont morts se réveilleront aussi certainement que tu te réveilles le matin. Parce que celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est lui qui les réveille. Hello. Lorsque quelqu'un est dans le coma, il est là et pourtant il n'est plus là. Il est physiquement là, vous le touchez encore, mais en même temps, déjà il n'est plus là. Finalement, quand quelqu'un nous quitte dans la mort, c'est un peu la même chose, à la seule différence que nous n'avons plus son corps. Mais il est autant parti que celui qui est là dans son coma. On ne peut plus communiquer avec lui, même si on nous dit qu'il nous entend, ce qui est possible à certains degrés de coma. Cependant, on va tout faire pour que le comateux se réveille. Et moi, ce soir, je souhaiterais que vous fassiez tout pour qu'un jour, vous aussi, vous vous réveilliez à côté de celui ou de celle qui vous a précédé dans la gloire. Jésus regarde la mort, et la mort de Lazare en particulier, en disant « Il dort ». Je trouve que cette approche est vraiment apaisante. On n'est soudain plus en face de cette détresse. On n'est soudain plus en face de cette angoisse. Tout est terminé. Non, il dort, mais il va se réveiller. Et aussi sûr que je me réveille le matin, je sais que lui aussi va se réveiller. Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, quand même il serait mort. Deuxième déclaration. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Jésus avait déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avec assurance, il pourra dire, je suis. Ce je suis me rappelle le je suis que Moïse entendra lorsqu'il posera la question, mais de la part de qui dois-je dire à Pharaon que je viens? Tu diras, je suis, m'envoie. Je suis, dans l'absolu, je suis. Et Jésus viendra en disant, non seulement je suis le chemin, la vérité, la vie, mais il nous dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Jamais aucun homme religieux, jamais aucun conducteur religieux dans toute l'histoire humaine n'a pu dire de lui-même « Je suis la résurrection ». Il ne l'a pas seulement dit, mais il l'a manifesté. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a triomphé de la mort. Mon frère, ma sœur, ce soir, c'est « Je suis » qui te parle. Qu'est-ce que cela signifie? Si « je suis » te dit qu'il est la résurrection et la vie, cela signifie que s'il habite en toi, tu as revêtu l'immortalité. Hello? Vous êtes des immortels. Ça, si vous êtes en rente viagère, ça va être long, hein? Vous êtes des immortels. Parce que celui qui est la résurrection et la vie, il habite en moi. Il habite en moi. Et parce qu'il habite en moi, la mort, ce sera un moment où je vais dormir. En d'autres mots, quand nous dormons, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous faites un tas de choses, sauf l'essentiel. Vous m'avez dit que vous ronflez, que vous bougez, que vous rêvez. Mais en finalité, l'essentiel, vous vous reposez. Vous vous reposez. Lorsque nous entrerons dans ce repos, la Bible dit, nous nous reposerons de nos œuvres. Nous nous reposerons de nos œuvres. Dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ?» Est-ce que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ? Faites-moi voir. Est-ce qu'il habite en vous ? Écoutez bien ce qui se passe. Gardez les mains en haut. Levez même les... Moi, à votre place, je lèverai les deux. Wow. Écoutez bien. Bon, si vous levez les deux mains, c'est pas une raison pour celui de derrière de fouiller les poches. Hein. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et vie. Ça change lorsque vous commencez à regarder la mort au travers des yeux de Jésus. Troisième déclaration de Jésus, et c'est mon troisième point. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il rajoute, crois-tu cela ? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bon, si je lis le texte littéralement, ça voudrait dire que les chrétiens ne meurent jamais. Si ce soir j'essayais d'interpréter la parole de manière littérale, vous me diriez, ben, frère Samuel, alors pourquoi il y a tant de chrétiens sur les cimetières ? Et si franchement tous les chrétiens, entre autres de la mission du plein évangile, ne mourraient jamais, croyez-moi qu'on serait beaucoup plus nombreux. Parce que du coup, tout le monde voudrait être chrétien. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ne pas mourir ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour se prolonger ? C'est le créateur de Walt Disney qui, lui, s'est fait congeler. Il est aujourd'hui encore dans un congélateur. Hein. Pour que si jamais la science découvrait le moyen de ramener à la vie les morts, on puisse le décongeler et le ramener à la vie. Ouais, ça sera un produit Findus. On veut se prolonger, on veut continuer à exister. Et évidemment, si les chrétiens étaient devenus immortels physiquement, alors on n'aurait plus que des chrétiens sur toute la planète. Mais ce ne seraient pas des chrétiens. Ce seraient des hommes et des femmes intéressés, c'est tout. Des hommes et des femmes qui ne viendraient pas avec leur cœur vers Dieu, mais qui viendraient uniquement par intérêt vers Dieu. Quand Jésus dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est simplement en train de te dire que ceux qui croient en lui ne mourront jamais de la seconde mort. Ils ne mourront jamais de la seconde mort. Et là, je vois un tas de gens qui se transforme en point d'interrogation. C'est quoi la seconde mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est déjà suffisamment cher de payer une fois les obsèques. Il va pas nous effrayer en nous laissant entrevoir une deuxième cérémonie. Non, c'est bien autre chose. Suivez-moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Voilà ce qui est la seconde mort. C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Plus jamais de retour. Non pas que vous ne vivez pas éternellement. Ceci aurait été encore un bienfait si vous aviez pu arrêter de vivre à ce moment-là. Non, la Bible me dit que la seconde mort, c'est celle qui concerne votre relation avec Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, quand quelqu'un meurt, vous n'avez plus de relation avec lui. Quand un homme et une femme partent dans l'éternité sans Jésus, aux yeux de Dieu, il est mort pour la seconde fois, non pas physiquement, mais spirituellement, coupé pour toujours. Vous savez, nous sommes dans une période où on ne parle plus trop de l'enfer, on ne parle plus, comme si cela n'existait plus. Mais j'aimerais vous dire que la Bible déclare que l'enfer existe. Nous avons des témoignages de personnes qui ont vu l'enfer, des personnes qui étaient mortes cliniquement, des personnes qui étaient mortes entièrement. C'est l'homme avec lequel le papa Jean avait vécu une résurrection. Écoutez bien, il le connaissait depuis des années, allait le voir, mais cet homme ne voulait jamais rien savoir de Dieu. C'est plutôt la fille de cet homme qui insistait à ce qu'il aille le visiter. Et chaque fois qu'il venait, il voulait parler de tout, sauf de Dieu, sauf de la Bible. Ça ne m'intéresse pas. À l'âge de 80 ans, subitement, eh bien, sa fille appelle et dit, pasteur Jean, venez rapidement, papa est en train de mourir. Et le temps qu'il arrive, le papa était mort. Et là, nous ne prions pas habituellement pour les morts. La Bible ne nous dit pas de systématiquement prier pour les morts. Vous savez, ressusciter les morts, eh bien, doit venir sur un ordre de la part de Dieu. Parce que sinon, il faudrait qu'on, par exemple, que Jean-Marie devienne le prieur de toutes les morgues de la ville. Je pense pas que ça t'emballe, hein. Non, c'est sur une direction de la part de Dieu qu'on agit. Souvent, les gens m'appellent, pourriez-vous prier pour l'autre, dernièrement, une dame m'a appelé, maman à 84 ans, elle vient de décéder, voudriez-vous prier pour sa résurrection? J'ai dit, mais quand même, un jour, il faut partir, hein. Un jour, il faut partir. Si Dieu me donne l'ordre, alors oui. Mais pas systématiquement, il n'est pas dit de ressusciter les morts de la même manière qu'imposer les mains aux malades. Ceci dit, dans cette situation-là, il reçoit une conviction. Prie pour lui. Mais il ne l'avait jamais fait. Il a prié pour cet homme qui était mort, et le mort est revenu à la vie. Quelques jours plus tard, il le convoque. Pas le mort, enfin si, l'ancien mort, je m'en sors plus moi-même, l'ex-mort, voilà. le convoque et lui dit, pasteur Jean, je veux vous rencontrer. Et il va le voir. Et les premières choses qu'il lui dit, c'est, pasteur, promettez-moi que vous ne cesserez jamais de parler de Jésus. Attendez, lui, qui n'a jamais rien voulu entendre. Et lui dit, mais papa Brenner, pourquoi vous me dites ça? Il dit, je ne voudrais jamais qu'aucune personne aille là où j'étais. Je croyais pas au ciel, je croyais pas à l'enfer, mais j'étais en enfer. C'est terrible, l'enfer. Je veux plus jamais retourner en enfer. Je voudrais que personne n'y aille. Promettez-moi que vous ne cesserez jamais de parler de Jésus. Et à partir de ce jour, il ne voulait plus rien d'autre qu'une Bible et qu'on lui parle de Jésus. Il se laissera baptiser, vivra encore 3 ans, et ensuite s'endormira dans la paix du Seigneur. La seconde mort, mes amis, même les chrétiens ne le prennent pas au sérieux. Si nous avions plus conscience de cela, nous ne nous permettrions pas ce que nous faisons trop souvent. Séparés d'avec Dieu. Si vous êtes séparés d'avec Dieu, vous êtes séparés de tout ce qui est bon. Si vous êtes séparés d'avec Dieu, vous êtes séparés de la lumière, donc dans les ténèbres. Si vous êtes séparés d'avec Dieu, vous êtes séparés du Dieu Shalom, donc vous êtes dans les tourments, plus de paix. Si vous êtes séparés d'avec Dieu, vous êtes séparés de Yahvé Rapha, celui qui guérit donc la souffrance continuelle. Si vous êtes séparés d'avec Dieu, vous n'êtes plus que dans ce qui détruit. Et ça pour l'éternité. Que vous le croyez ou non, cela arrivera. On peut s'en moquer, on peut en rire. Ce que la Bible dit s'accomplit toujours. Toujours. Qu'est-ce qui nous conduit à la seconde mort? Qu'est-ce qui nous conduit à la seconde mort? Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui refuse Jésus-Christ refuse le seul moyen d'échapper à la seconde mort. Parce que si vous refusez le Christ, vous refusez le seul qui et payez le prix pour vous à la croix, qu'il soit capable de vous laver de vos péchés. Et en tant que pécheur, personne, ici, dans ce lieu, ni nulle part ailleurs, personne ne peut entrer dans la présence de Dieu. C'est impossible. 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 En demeurant dans le péché, vous vous privez de la présence de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le péché vous en sépare. Et dans Romains 3, 23, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai demandé à quelques jeunes de nous présenter simplement, courtement, en 5-6 minutes, comment le péché peut vous rendre captif. On va éteindre les lumières et puis pendant un instant, ils vont venir. Avez-vous compris? Vous savez, quelqu'un disait que les images remplacent souvent de longs sermons. Ce soir, on met l'image et le sermon. Permettez-moi de terminer. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, et j'aimerais dire qu'il n'y a que le Fils qui puisse vous affranchir. Il n'y a que lui qui puisse vous rendre libre. Je termine. Comment Jésus réagit-il en pensant à la seconde mort? Et j'aimerais que vous me donniez encore 5 minutes. Comment réagit-il lui? Regardez ce qui est écrit dans Jean 11, 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut toute émue. La traduction du Semeur dit... En la voyant pleurer, et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Et nous, lorsque nous lisons cela, nous avons le sentiment qu'il est ému parce que Lazare est mort. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Le terme grec qui est employé là, quand il est appliqué à un être humain, signifie invariablement en colère, indigné et outragé. Voilà ce que Jésus était. Jésus était en colère. Jésus n'était pas là en train de pleurnicher sur la situation. Jésus était en colère. Alors pourquoi était-il en colère? Il avait différentes raisons d'être en colère. Tout d'abord, en colère lorsqu'il regarde les conséquences du péché. La mort était une conséquence directe du péché. Regardez ce qu'il a dit dans Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque Jésus voit la mort de Lazare, il ne pleure pas parce que physiquement il est mort, il sait qu'il va le ramener à la vie. Mais lorsqu'il voit la mort de Lazare, il voit l'une des conséquences du péché, et il est en colère, il est profondément indigné quant à ce que le péché a produit dans l'humanité. Lorsque Jésus pensait au plan divin que Dieu avait pour Adam et Ève, même si sa venue ensuite n'était pas une route de secours, il savait très bien que l'homme pouvait échapper à cette destinée-là. Et qu'en fait, tout ce qui arrivait, toute cette souffrance, n'était que le résultat du péché et de la désobéissance du premier parent déjà. Mais malheureusement, de ta désobéissance et de ma désobéissance. Il nous est dit qu'il pleura. Dans Jean 11, 35, Jésus pleura. Et très souvent, quand on lit ça, on se dit, oui, ah ben oui, il pleurait. Il pleurait parce qu'il, évidemment, Marie pleurait, Marthe pleurait, donc lui aussi, il était ému. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas pris part à la douleur. Mais j'aimerais vous dire que s'il pleurait, c'est parce que lui, derrière la mort, voyait la seconde mort. Lazare, il allait le ressusciter. J'aimerais te dire ce soir, il pleure en regardant la souffrance de cette femme trahie par son mari. Il pleure en regardant ses enfants qui ne savent plus quand ils sont chez papa, quand ils sont chez maman, qui sont divorcés depuis longtemps maintenant. Il pleure lorsqu'il voit cette jeune fille s'enfoncer son aiguille dans le bras pour se droguer. Lorsqu'il la voit se prostituer pour gagner sa drogue, il pleure. Il pleure. Il pleure lorsqu'il voit la jalousie détruire par la langue le prochain. Il pleure lorsqu'il voit l'orgueil de l'homme écraser d'autres hommes. Il pleure lorsqu'il voit l'hypocrisie. Mais permettez-moi de vous dire aussi, il pleure, et j'insiste dessus, quand il voit l'Église de Jésus-Christ être indifférente à la perdition. Il pleure quand il voit l'Église de Jésus-Christ. Quelqu'un avait dessiné un dessin et j'ai trouvé ça tellement fort. Regardez là. Le brave chrétien, il n'a qu'une préoccupation. Seigneur, bénis mon poisson rouge. Pendant ce temps, regardez ce qui se passe à côté. Des personnes partent pour l'éternité en enfer. Et il me semble que c'est souvent cela. Une espèce d'indifférence. Nous sommes préoccupés par des problèmes qui parfois me dépassent. Je vois des chrétiens faire des histoires de choses tellement secondaires. Mais à côté de cela, ils ne s'occupent plus de ceux qui partent vers la seconde mort. Ils n'ont plus le temps. Ah, si le Seigneur avait été fidèle, jamais ma voiture m'aurait lâché à ce moment-là. Tu crois que c'est vraiment important? Tu crois pas qu'il y a plus important? Ah, frère, vous savez, ma seule préoccupation, c'est maintenant où je vais aller en vacances. C'est ton seul problème en tant que chrétien? Alors que Christ est mort pour qu'il n'entre pas dans la seconde mort. Il pleure quand il voit la tiédeur des croyants. Il pleure lorsqu'il voit l'indifférence d'une majorité de chrétiens. Il pleure. Mon frère, ma sœur, ce soir, Jésus pleure. Il pleure non pas parce qu'il voit une mort physique, il pleure parce qu'il sait que derrière une mort physique, il peut y avoir une seconde mort. Il pleure. Permettez-moi d'arriver à ma conclusion. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. « Lazare, sors !» Et le mort sortit. J'aimerais ce soir, en terminant, vous rappeler une chose. C'est qu'un jour, le même cri aura lieu. Le même cri aura à nouveau lieu. Écoutez bien ce qu'il est dit. Voici en effet ce que nous déclarons, Thessaloniciens 4, 15 à 18. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lazare a entendu une voix qui lui dit « Sors !» Et nous entendrons tous à un moment donné une voix qui dira « Lève-toi ! Lève-toi ! Réveille-toi ! Mon frère, ma sœur, si Christ pleure, nous ce soir, nous pouvons lui donner par notre attitude et par un changement de comportement des sujets de se réjouir. Nous avons en lui un sujet de nous réjouir. Il est dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Écoutez ce qu'il est écrit là. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et permettez-moi de terminer en disant trois choses. La première, je m'adresse aux personnes qui peut-être n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Écoutez bien. Ceux qui refusent sa main, qu'entendront-ils ? Parce que si les uns entendront « Lève-toi », d'autres entendront autre chose. Et je cite la Bible. Apocalypse 22, verset 15. Il est dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Dehors. Dehors. Ce sont des paroles terribles. Nous nous réveillerons tous. Mais quelle sera votre éternité? Quelle sera mon éternité? Quel est mon choix? À nous qui sommes chrétiens, il est dit, voici, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je souhaiterais ce soir qu'il frappe à la porte du cœur de beaucoup de croyants, qu'il leur rappelle, il y a une seconde mort. Tu as une mission. N'oublie pas pourquoi je suis venu. Sois indigné comme je le fus. Sois toi aussi indigné. Mets-toi aussi en colère. Que ta colère soit suffisamment grande pour que tu dises, je ne laisserai pas les choses continuer à se faire comme ça. Non, je ne laisserai pas mes voisins partir en enfer comme ça. Non, je ne laisserai pas ma famille partir comme ça. Non, je ne laisserai pas mes collègues de travail partir. Non, je ne resterai pas là silencieux. Non, je ne resterai pas là indifférent. Je suis suffisamment en colère contre toute l'œuvre que le diable a fait pour détruire. Je me lèverai. Et je leur annoncerai la bonne nouvelle. Et à vous qui avez perdu un être cher, je me termine en disant, s'il était en Christ, soyez dans la paix. Aussi sûr que vous vous réveillerez demain matin après avoir dormi, il se réveillera. Et je vais vous dire une chose, ce sera la fête. Vous savez pourquoi ? Parce que de la même manière que les sœurs de Lazare ont retrouvé leurs frères, vous retrouverez ceux qui vous ont devancés dans la gloire. Me direz-vous, mes frères, nous reconnaîtrons-nous là-bas ? Oui, nous nous reconnaîtrons. Nous reconnaîtrons même ceux que nous n'avons jamais vus. La preuve, les disciples voient Élie et Moïse et les reconnaissent. Il y a, pour nous qui sommes enfants de Dieu, au travers des yeux de Jésus, une autre manière de regarder la mort. Il dort, mais je vais le réveiller. Fermons nos yeux un instant. Alors que nos yeux sont fermés, alors que j'aimerais demander à Bernard de venir rapidement, j'ai voulu être vrai et nous n'avons pas le droit de vous cacher ce que dit l'Écriture. Je n'ai pas le droit de vous embellir la Bible en vous disant « mais finalement Dieu est tellement bon que tout le monde sera au ciel ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'il est dit. Cependant, chers amis, ce soir, il y a une merveilleuse opportunité d'échapper à la seconde mort. Et cette merveilleuse occasion, ce merveilleux moyen, ce chemin qui peut vous faire éviter cela, porte un nom, Jésus. Celui qui pouvait dire de son ami Lazare, « Oh, il dort. Et je vais le réveiller. » Et celui qui peut dire de toi et de moi, « Oh, il dort, mais je vais le réveiller. » Et là, ce soir, il est là pour qu'un jour, en le recevant, toi aussi, il puisse te réveiller dans la présence de Dieu. Il y a peut-être des téléspectateurs, des internautes, qui suivent ce moment de culte. Il veut également vous réveiller un jour. Il n'y a rien de plus merveilleux que voir quelqu'un partir en pouvant dire « il dort ». Lorsque je vois la détresse de ceux qui n'ont aucune espérance, je me dis « mais quelle grâce, il dort ». Et il se réveillera parce qu'en lui se trouve la résurrection et la vie. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en lui. Cependant, le seul qui est dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est Jésus. Le seul qui puisse vous donner la vie éternelle, c'est Jésus. Ni vos œuvres, ni vos bonnes actions, ni votre religiosité, quelle qu'elle soit, ne vous sauvera. Votre argent, je n'en parle même pas. Vos biens, vous les laisserez tous.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.